Carrefour.
Quand vous me dites
Carrefour baisse ses prix.
Oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon féculents, conserves et animalerie. Comme le pack de 8 sachets de pâté pour chat stérilisé Purina One qui passe de 5,13€ à 3,99€, soit 22% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
8 x 85g, prix baissé à compter du 17 juin 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détaillez liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec aujourd'hui Rémi Barré, avec Perico Legas, Emmanuel Dancourt et Laurent Dandrieux. On va parler dans un instant de la grande manif anti-RN ce week-end, des tribunes et des appels au vote qui se multiplient. Le front anti-RN est-il utile? Dites-nous tout au 32-16 et sur l'appli RMC. Dites-nous si vous allez aller manifester. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On va parler peut-être du futur ministre de la France. Est-ce que ce sera Jean-Luc Mélenchon ou encore François Ruffin. Voilà, la bataille fait rage entre les deux. À 14h, le début des épreuves du bac français pour 535 000 élèves de première. Mais le bac sert-il encore à quelque chose? Appelez-nous pour nous dire si, par exemple, vous n'avez pas le bac, vous avez quand même très bien réussi votre vie. Et si, au contraire, vous poussez vos enfants absolument à avoir ce diplôme. Il y aura les immanquables également, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Oui, dans les immanquables, on parle notamment d'une petite entreprise qui est située dans le Nord.
Ouais.
11 salariés. Cette entreprise, elle est spécialisée dans les articles de sport, elle s'appelle les Olympiades.
Ouais, alors?
Eh ben, le CIO est pas d'accord du tout.
Mais non.
Le comité d'organisation lui dit la somme de cette entreprise de changer de nom parce que le nom lui appartient. Ouais, je vais vous raconter.
Ah oui, tout arrive.
Ouais.
RMC Estelle Midi.
5 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la manif du jour et c'est celle prévue demain un peu partout en France pour lutter contre le RN depuis dimanche dernier et les élections européennes. Les tribunes et les appels à faire barrage à l'extrême droite se multiplient, même les joueurs de l'équipe de France s'y mettent, Rémi.
Oui, alors sans appeler ouvertement à faire barrage au Rassemblement National, d'ailleurs les membres de l'équipe de France ne devraient pas le faire ouvertement, vraisemblablement. En tout cas, l'équipe de France qui vient donc d'arriver en Allemagne pour l'Euro se mobilise pour inciter au vote. Interrogé sur la question de la montée de l'extrême droite, l'ailier du PSG Ousmane Dembélé a ainsi expliqué hier avoir vu qu'un Français sur deux ne votait pas et il appelle à se mobiliser pour aller voter tous ensemble. Le monde de la culture commence également à se mobiliser au travers de quelques tribunes, comme celle lancée par 15 syndicats du spectacle vivant pour leur métier vraiment à l'opposé des valeurs que défend l'extrême droite. Je cite, les syndicats à la pointe de cette résistance, c'est quand même les syndicats traditionnels, ceux de la CGT, de la CFDT, de l'UNSA, FSU et Solidaires, qui appellent à manifester, tu l'as dit, demain à travers toute la France. Officiellement, il s'agit de défendre les exigences sociales qui seraient menacées, mais la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a été très claire. Il s'agit pour elle, bel et bien, d'empêcher le pays de basculer dans le fascisme.
Alors, le front anti-RN est-il utile, Laurent Dandrieux?
Alors, pour moi, il est à la fois grotesque et scandaleux. Grotesque parce que, c'est ce que je me disais en écoutant hier Fabien Roussel, qui était interviewé je ne sais plus trop où, et on lui demandait s'il trouvait pas ça bizarre de vouloir lutter contre le fascisme en s'alliant avec un parti qu'il accusait encore il y a très peu de temps d'être antisémite. Et il a fait une longue réponse en parlant quasi exclusivement du maréchal Pétain. Alors, moi, j'avais pas conscience que le maréchal Pétain avait été investi pour les législatives par quelques partis que ce soit. Et il est évident que là, on a affaire à un petit théâtre antifasciste, toujours le même, qui vise à diaboliser l'adversaire pour empêcher que soient abordées les vraies questions. Parce que je rappelle quand même qu'entre le bloc Front Populaire et le bloc national, on n'a pas exactement les mêmes positions et on va pas faire exactement la même politique sur les questions d'immigration ou d'insécurité, par exemple. Scandaleux parce que moi, ça me fatigue que des gens qui, toute l'année, nous répètent que l'extrême droite, c'est très mal parce que ce sont des gens qui surfent sur les peurs. Eh bien, dès qu'il y a une campagne électorale qui s'agite, eh bien, ces gens-là sont les premiers à agiter des peurs, des fantasmes de fascisme dont on sait très bien qu'il est totalement inexistant. Quand on regarde la réalité de ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui, je suis désolé, mais Marine Le Pen, elle est à gauche de Giorgia Meloni. L'Italie n'a pas basculé dans le fascisme, le totalitarisme, l'abrogation des libertés publiques. La troisième chose, c'est que effectivement, comme je le disais, je trouve pour le moins paradoxal de vouloir de dire c'est tellement important de lutter contre l'extrême droite que pour le faire, il faut même s'allier avec des antisémites. Je ne comprends pas bien la logique. Et moi, je suis désolé, mais ça me fait toujours penser à cette phrase.
Alors là, dans le programme du Front Populaire de Gauche, il est dit noir sur blanc l'un de leurs buts est de lutter contre l'antisémitisme.
Excusez-moi, mais moi, ça ne me rassure pas du tout quand un parti qui a montré plus que de la complaisance avec l'antisémitisme, dire on va prendre en charge la lutte contre l'antisémitisme, ça m'inquiète plutôt qu'autre chose. Et ça me fait penser, et je termine là-dessus, à cette phrase magnifique de Pasolini, le grand poète et cinéaste italien, qui dès les années 68, je crois, disait le seul moyen que le fascisme de revenir sur le devant de la scène, c'est de se baptiser antifascisme. Et ben là, on y est.
C'est la première fois que je vous parle autant, Laurent d'Andrieux.
Non, ça m'énerve.
Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il est utile ce front anti-RN ou est-ce que c'est aussi quelque part prendre les électeurs pour des imbéciles? L'extrême droite a fait 40% aux européennes si on additionne le RN et Reconquête.
Il est très très utile parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas en fait ce que ça signifie d'avoir le RN au pouvoir. Il est tellement utile que le groupe dont je vous parlais tout à l'heure, Alerte Féministe, qui
rassemble le front anti-RN qui va
plus 50 associations féministes, ONG et syndicats, va faire sa propre manifestation le 23 juin, partout en France et à Paris, où on va faire sonner des alertes féministes. Et quand tu dis, tu parlais de Giorgia Meloni, que ça n'a rien changé, alors pourquoi les féministes se mobilisent? Parce que si le RN passe, et Dieu sait que gauche, ils sont vraiment loin d'être parfaits, mais au moins on peut un peu discuter, mais si le RN passe, c'en est fini des batailles pour les droits des femmes. Et si on prend des
exemples, quelle est la mesure, Meloni.
T'es quand même au courant que le Rassemblement National a voté la constitutionnalisation de l'IVG, ça t'a échappé?
Non, ça m'a pas du tout échappé. Ça m'a pas échappé parce qu'il fallait à un moment aller dans le sens de l'histoire. Ah, mais tu parles de Giorgia. Attends, je finis. Je t'ai pas interrompu, Laurent. Ouais. Tu parles de Giorgia Meloni. La première chose qu'elle a fait, elle s'est attaquée au RSA. Elle s'est attaquée au droit à l'IVG. Elle s'est attaquée au droit de la PMA pour les couples lesbiens. Si tu vas en Espagne, l'extrême droite de Vox, ils ont carrément nié l'existence des violences sexuelles à l'encontre des femmes et des minorités de genre. En Pologne, l'avortement, il est interdit. Même quand le fœtus, même quand le fœtus, il est difforme. Mais c'est de l'extrême droite. En France, le Rassemblement National a déjà annoncé qu'il couperait les subsides au planning familial.
D'accord.
C'est un parti qui n'est pas du côté des femmes, qui n'est pas du côté des femmes, et c'est pour ça qu'on appelle un rassemblement à une grande marche le 23, mais bien sûr qu'on suivra les autres rassemblements des autres syndicats.
Tu vas voter pour la coalition qui investit Quatennens.
C'est très compliqué. C'est très compliqué, et effectivement, mais si je fais un choix, je ne ferai pas le choix du RN, ça c'est évident. Non. Voilà.
Perico Legas, est-ce que vous allez aller manifester ce week-end?
Oui, parce que ça va contribuer peut-être à clarifier les choses aux yeux des Français. Je crois que quand je dis oui, c'est ironique. Vous dites utile, ils sont les idiots utiles. C'est exactement ce que cherche le président de la République, créer des tensions, créer des conflits, peut-être même aller plus loin s'il y a une réaction, créer des émeutes, créer un grand désordre qui fera dire à une partie des Français qui sont en dehors du maras, eh bien on va voter pour les sortants du pouvoir en place parce qu'on va voter la sécurité. Donc tout à fait contre-productif. Je pense que d'ailleurs Mélenchon voudrait qu'on calme les choses, qu'il y ait une manif. Alors c'est une manif contre quoi? C'est pas une manif contre une action, une décision du Front du Rassemblement National, c'est une manif contre le suffrage universel. On va voter contre des Français, des citoyennes et des citoyens français qui, je le rappelle, ça fait très très mal à la gauche. Le premier électorat transfuge vers le Rassemblement National, vers le Front National à l'époque, c'est l'ouvrier.
Oui, c'était
l'électorat communiste et socialiste qui était tellement déçu par la façon dont les partis de gauche les ont trahis, les ont livrés au capitalisme, ont renoncé et ont renié toutes leurs valeurs qu'ils ont jeté ces gens dans les bras du Rassemblement National qui aujourd'hui a un programme effectivement plus à gauche. Donc on peut aller dans ce sens-là, et si on va dans les comparaisons brillantes, intelligentes de l'extrême droite, donc on peut remonter effectivement à Pétain à Hitler. Donc j'ai le Parti communiste dans le Front populaire. Donc on aura la Corée du Nord et la Chine populaire. On aura évidemment un système marxiste totalitaire. Donc c'est tellement bête.
Exagéré.
Alors tout ça,
c'est pas exagéré du tout, cette théorie est en place. Moi je parle d'aujourd'hui.
Cette dialectique est en place depuis 30 ans. Alors cette dialectique est en place depuis 30 ans. Je te donne les résultats. 32% au premier tour en 2017, 42% au 35% en 2017, 42% en 2017. Et là, ils sont à 40%, ils sont au port de pouvoir. Continuez, je pense que vous les voulez. Parce que vous avez besoin qu'ils soient au pouvoir pour prouver que vous êtes des résistants. Mais continuez avec ce discours, vous êtes en train de faire leur jeu. C'est formidable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'ayez pas compris que les Français en ont marre de se faire insulter. Ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas xénophobes.
Mais ils ont quand même le droit de dire ce qu'ils pensent.
On a quand même le droit de s'exprimer. Combattez-les
sur des idées concrètes. Ne les comparez pas à Pétain, à l'extrême droite.
C'est pas ce que j'ai fait. Attends, excuse-moi, je te cite Mélanie, je te cite Vox, et je te dis ce qu'il y a dans le programme.
Elle n'a pas parlé de Pétain.
Elle n'a
jamais parlé de Pétain.
Elle est dans le sens de ce qu'a dit Emma, qui n'a pris que des exemples concrets
et contemporains
de mesures qui ont été voter ou pas justement
sur le féminisme. Mais j'en ai là.
Regarde, en 2020, il y a une résolution contre les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Oui.
Jordan Bardella s'est abstenu.
Ouais.
Bon, c'est un exemple. Autre exemple, entre 2020 et 2021, sur l'interruption volontaire de grossesse, les élus européens RN s'étaient opposés à une résolution condamnant la Pologne qui interdisait quasi totalement l'avortement. Les députés européens RN se sont abstenus contre une résolution qui visait à condamner la Pologne.
Et c'est peut-être plus malin de donner ces arguments-là que de manifester.
Lors du vote sur la Constitution. Lors du vote sur l'entrée de l'IVG dans la Constitution française. 46 députés RN sur 88 ont voté pour.
Oui,
les autres se sont abstenus ou ont voté
contre. La position du parti, c'était de voter pour. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien.
Non, je dis mais après, c'est
le positionnement. Mais les chiffres sont très différents
entre avoir ce genre d'argument qui consiste à dire il y a des positions qui ne nous plaisent pas et donc nous appelons à voter contre, ce qui est évidemment l'essence même du débat démocratique et parfaitement légitime, à manifester pour dire ce parti n'a rien à faire là, c'est un parti de nazis, c'est un parti. Les manifs, elles n'existent que parce qu'on considère que le vote Rassemblement National n'est pas légitime parce que ce serait un vote d'essence totalitaire. Et ça, c'est n'importe quoi.
Alors, on a plein de messages, en tout cas, sur ce thème, sur l'appli RMC Rémi.
Oui, ce message de Fabio qui nous dit « Moi, je suis totalement opposé aux idées du Rassemblement National, mais j'ai peur quand même que ce soit contre-productif. N'y a-t-il pas un risque de braquer ceux qui votent ?» Aujourd'hui, Rassemblement National.
Mais ils voteront quand même, RN. C'est pas eux qu'on vient chercher. Mais c'est les abstentionnistes, à ton avis. Pourquoi on fait ça tous? C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'abstentionnistes qui savent pas très bien pour qui ils vont voter. Et c'est ces gens-là qu'on vient chercher. C'est important que ces gens-là votent.
Mais tu crois qu'en fait, ces gens-là, justement, ils iront plus facilement voter si ils ont des arguments comme vient de le donner Rémi, et comme tu les as donnés, ou si t'as des slogans dans la rue. Et en plus, il y a un autre risque. Le risque, il est là. Si jamais cette manif, elle se passe mal, et espérons qu'elle se passe bien. Si jamais il y a des débordements, et ça va profiter à qui, à ton avis?
Et alors, on fait quoi? On manifeste plus parce qu'on a peur des black blocs?
On fait campagne.
Ces arguments-là, on les retrouvera dans notre manif du 23. Et on n'agite pas des peurs. On passe sur des réalités. Attends, Rémi a donné des chiffres réels et contemporains. J'ai fait la même chose. Il y a une vraie menace qui est réelle. C'est pas agiter des peurs, c'est réel, c'est prouvé. C'est déjà arrivé.
Mais tu seras dans la manif.
À partir de ce moment-là,
dans cette manif, il y aura pas, que ce genre d'argument.
Suivez notre manif du 23, vous verrez.
Oui, mais là pour l'instant, on parle de celle de ce week-end.
Oui, bien sûr.
On est avec Arnaud, qui nous appelle de Valence, dans la Drôme. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous, Arnaud. Est-ce que vous allez manifester dans la Drôme ce week-end contre le RN?
Pas du tout.
D'accord.
C'est parce que tout simplement je travaille déjà.
D'accord.
Et ensuite moi en fait je vous ai expliqué en fait. J'ai toujours eu une sensibilité de droite ou autre. À dernière aux élections en fait qui précédentes européennes, j'ai voté à droite. Et là en fait avec ce qui se passe les élections présidentielles, législatives. Je vois la NUPES, en fait, je vois LFI et tout le front de gauche qui se mettent ensemble ou autre. Et moi, en fait, j'avais décidé de ne pas voter.
D'accord.
Et là, avec tout ce qui se passe actuellement, avec tout ce qu'on est en train de nous mettre dans les médias, nous imbriquer, dire « votez pas pour eux » ou quoi que ce soit, et avec chaque fois cette menace de dire « attention, si vous votez pour eux, ça va être le feu et le sang », mais et que en plus il y a des débordements comme ce qui s'est passé à Lyon où il y a eu la Jeune Garde, c'est l'extrême gauche qui a brûlé des qui a dégradé des choses et qu'en fait on nous dit attention attention, des gens vont tout casser parce que c'est voté pour eux. Moi je trouve ça antidémocratique. Donc je pense qu'en fait je vais aller voter. Et je vais aller voter pour faire un front en fait contre l'extrême gauche, contre cette épaisse là en fait qui en plus vous parlez des féministes ou autres, mais toutes ces associations féministes en fait ont crié par rapport à ce qui s'est passé 7 octobre. Elles sont où ces associations féministes-là ?
Ah, c'est reparti. Non, mais voilà, il y en a plein. Non, mais c'est un autre débat. Il y en a eu plein d'associations féministes qui ont réagi dès le début.
Pas toutes,
effectivement, pas toutes. Mais le front féministe est extrêmement divisé. Il y a plein d'associations qui ont réagi.
Mais en fait, moi, ce qui m'énerve là actuellement, c'est qu'en fait, on est en train de nous embrigader dans la tête. Que là, en fait, la démocratie, c'est pas en fait, le vote, en fait, c'est en soi, et qu'en fait, on est en train de nous pousser, nous, à voter contre le Rassemblement national et à nous dire ne votez pas pour eux, votez pour nous.
En fait, on vous infantilise, ça vous dites. On vous infantilise,
vous voterez
en fait,
bien pour qui vous voudrez, Arnaud. Nous, on vient avec nos arguments, tout le monde vient avec ses arguments, puis vous votez pour qui vous voulez.
Ce que dit Arnaud, c'est pas des arguments, c'est le fait qu'on dit le pays va être à feu et à sang, donc on agite des peurs fantasmatiques, et éventuellement on les crée en poussant un peu les black blocs, pour dissuader les gens de voter ce pour quoi ils ont envie de voter. Donc ça, je suis désolé, mais c'est un comportement qui est...
Alors, une fois de plus, chacun votera pour qui il veut. Nous, on vient chercher les abstentionnistes. Voilà.
Et je pense que s'il y a les Black Blocs...
Je te parle pas de ta manifestation, je te parle de
cette agitation. Et s'il y a des Black Blocs à cette manifestation, malheureusement, pour ce front anti-RN, ce sera une très mauvaise nouvelle pour ce front anti-RN, parce que justement, ce sera symbole de désordre. Et il vaudrait mieux, effectivement, pour eux, que cette manifestation se passe relativement bien, évidemment. Merci, en tout cas, Arnaud, d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a pour vous, Perico, quand même un risque que ça dégénère ce week-end ou au contraire, vous pensez quand même, on sait que les services d'ordre sont plutôt très bien faits hein, du côté des syndicats. D'ailleurs, ça avait très bien marché lors de la réforme des retraites où il n'y avait eu quasiment aucune interpellation, aucune casse. Est-ce qu'il faut justement que le service d'ordre soit très fort sur cette manif?
Chez les responsables du Front Populaire, du Nouveau Front Populaire, au PS et même dans la France Insoumise, il y a évidemment des gens qui vont veiller à ce qu'il n'y ait aucun débordement puisque c'est l'image d'une éventuelle gauche au pouvoir qu'ils vont donner. Donc, et lorsque, en 1936, il y avait eu des grandes manifestations contre les ligues, on avait bien veillé à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Mais vous savez très bien qu'il y a dans cette mouvance des gens qui attendent ça pour faire de la provocation, pour faire de la casse, et on peut avoir éventuellement des débordements non contrôlés, que peut-être, comment vous m'exprimez prudemment, la police n'arriverait pas à juguler par manque d'opportunité, vous voyez.
Je crois qu'on a compris, oui.
Voilà. Et là, on aurait une image, peut-être, de ce qu'on a eu dans les banlieues en juin de l'an dernier.
On n'en est pas là.
On n'en est pas là, mais ça avait commencé avec une bavure policière. On a vu la proportion que ça a pris. Donc, si on se retrouve dans cette situation-là, il est évident que là, le président de la République aurait raison de dire aux Français, écoutez, votez pour moi, parce que quand même, moi, je suis la sécurité. Alors, les autres, ce sont des violents à cause de ceux qui peuvent provoquer. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'appelle Monsieur Mélenchon à bien contrôler, parce que c'est quand même lui qui aura le là, qui dit bien aux petits, on reste sage.
C'est ça. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Notre invité sur ce débat, c'est Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire aux éditions Michel Lafon. Vous êtes un peu chroniqueur d'Estelle Midi aujourd'hui, Arnaud. Hein.
Oui, eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous.
Eh ben, on est très heureux. Ce front anti-RN, pour vous, il est utile ou il est contre-productif, Arnaud?
Enfin, moi, j'ai les plus grands doutes sur l'efficacité de ce front anti-RN tel qu'il se reproduit un peu sur le modèle de 2002. Ce qui est sûr, c'est que je veux dire, on est dans une situation d'extrême tension.
Oui, c'est vrai.
Avec bon, le principal responsable de cette tension, c'est bien évidemment le président de la République, parce que je dirais à partir du moment où il procède à une dissolution dans le contexte que l'on connaît, dans un agenda aussi resserré que celui dans lequel vont se dérouler les élections législatives, inévitablement, on ne peut qu'exacerber les déchirures et les tensions. Moi, ce que je pense, c'est que, si vous voulez, il y a deux aspects. Le premier aspect, d'abord, sur l'efficacité du front républicain. Ce qu'on constate quand même, c'est que, élection après élection, ce front anti-républicain recule. Ça, c'est une réalité. Il recule pourquoi, d'ailleurs? Il y a une raison assez profonde, c'est que parmi les nouveaux électeurs qui rentrent aujourd'hui sur le marché électoral, Ben, vous savez, beaucoup de ces électeurs, les plus jeunes notamment, les jeunes actifs, n'ont pas été socialisés dans cette atmosphère de front républicain. C'est ce qui change considérablement, vraisemblablement, le comportement et la relation au Rassemblement National, qui s'est lui-même, qu'on le veuille ou non, que cela nous plaise ou non, qui s'est quand même transformé. Le Front National de 1986 à l'Assemblée Nationale n'aurait jamais voté la constitutionnalisation, ou en tout cas, aucun de ses parlementaires n'aurait voté la constitutionnalisation de l'IVG. On peut, si vous voulez, projeter des craintes, des peurs, des inquiétudes. On peut, évidemment, et on doit vraisemblablement combattre le Rassemblement National, mais encore faut-il le faire sur des arguments, qui sont des sujets concrets. Ce qui, à mon sens, n'est pas le cas. Il faut véritablement éviter de saisir l'histoire, une histoire passée, pour essayer de combattre une force politique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce que je crois véritablement, c'est que on risque de se retrouver dans une situation très frontale d'affrontement de bloc contre bloc. Et je pense que, si vous voulez, le bloc central, le bloc macroniste va souffrir lors de ces prochaines élections législatives, parce qu'on voit que finalement, vous avez deux forces aujourd'hui qui sont en train de prendre le lead dans les intentions de vote. C'est d'un côté le Rassemblement National, on l'a vu lors des dernières élections européennes, et de l'autre, le Front Populaire, avec finalement cette sorte de divine surprise qu'a constitué pour beaucoup d'électeurs de gauche, vraisemblablement, cette unité à laquelle on ne pouvait pas, dont on ne pouvait pas imaginer la fabrication le vendredi précédent l'élection européenne. Mais c'est vrai que le Front de gauche aussi fait peur. Si le Rassemblement National fait peur, le Front de gauche fait peur. Si
vous voulez, c'est plus LFI.
Mais écoutez, quand vous avez LFI, quand vous avez le NPA, LFI qui quand même n'a pas clarifié un certain nombre de ses positions, qu'on le veuille ou non. J'ai entendu ce matin Madame Autain qui dit « Ah certes, le Hamas est un mouvement, a commis des actes terroristes, mais c'est aussi un mouvement qui exprime la résistance du peuple palestinien. » Je suis désolé, je veux dire, quand vous tenez des propos de ce genre, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne clarifiez pas vos positions. Donc il y a aussi la possibilité, si vous voulez, qu'une partie de l'électorat conservateur, voire même modéré, finalement considère que le bloc de droite, c'est-à-dire le bloc du Rassemblement National, aujourd'hui qui est à 32%, constitue le meilleur barrage pour faire barrage à la gauche. Donc d'accord, je crois qu'on est vraiment dans une situation qui est extrêmement tendue, extrêmement complexe, et il faut essayer peut-être d'éviter d'avoir des schémas trop simplistes pour l'analyser.
Et on a vraiment l'impression qu'effectivement tout peut se passer finalement au premier, au deuxième tour des législatives, que rien n'est figé. Juste en 2002, il y avait eu 1 500 000 personnes dans la rue. J'imagine que ce sera beaucoup moins, Arnaud Benedetti, ce week-end. Ce sera un succès à partir de combien de personnes ?
Je peux pas vous dire. Manifestement, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis 48 heures. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on ait en effet le niveau de participation qu'on a pu connaître.
C'était Jean-Marie Le Pen, attention.
Bien sûr, deuxième tour de la présidentielle.
Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. Bon, certes, ils ont le même patronyme, même si elle est la fille de Jean-Marie Le Pen. Je rappelle quand même qu'elle a exclu Jean-Marie Le Pen de son mouvement, politique. C'est quand même une réalité. Donc, je suis sceptique sur une mobilisation, en tout cas aussi forte que celle que l'on a pu connaître, encore une fois, au début des années 2000.
Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, en tout cas, d'avoir été avec nous. On suivra évidemment très attentivement ce qui se passe lors de cette manif demain. On va terminer très rapidement avec Bernard, qui nous appelle de la plus belle région de France. Non, je rigole, mais la Bretagne, bien sûr. Il nous appelle de Vannes, dans le Morbihan. Bonjour, Bernard.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous vouliez réagir, Bernard, sur ce front anti-RN. Allez-y.
Oui, bah, en fait, comme il va y avoir de la casse, comme le dit Péricot, ça va faire l'effet contraire de ce que c'était prévu, quoi.
Voilà, on n'est pas sûr qu'il y aura de la casse, hein, Bernard. Encore une fois, il y a les services d'ordre qui sont plutôt expérimentés
depuis des années, vous.
Bah oui, non, mais vous ne pouvez pas dire ça, Bernard.
Une de récupération d'eau, ils arrivent à se taper dessus. Faut arrêter. Alors moi, je voudrais revenir juste sur quelques points. J'ai entendu
un point, Bernard. Là.
Ouais. Alors je vous rappelle qu'en 2005, il y a un certain référendum qui a été fait.
Oui,
où les Français ont dit non. Oui. Et on nous a passé par-dessus les citoyens.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est pas le RN, hein. Pas le RN, ça.
Non, mais
voilà. Alors, le 26 juin 2016.
Oui.
Consultation sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique.
Oui.
Les gens ont voté oui. On a dit non. C'est démocratique, ça?
Non mais
je pose la question.
Non mais j'entends Bernard, oui. Mais je sens que vous avez...
Il y a beaucoup de Français qui en ont marre de ça, quoi.
Oui, je comprends.
Quand on dit le Front National, c'est pas un parti démocratique. Emmanuel Macron, ça fait 7 ans qu'il est là, il aurait pu l'interdire.
Oui, non mais, ça, non mais personne ne dit que voilà qu'il faut interdire le RN. En tout cas, je sens bien Bernard que vous n'irez pas manifester demain dans ce front anti-RN. Mais bon, alors il devrait y avoir pas mal de monde.
Mais les Bretons sont même. Les Bretons sont toujours très, sauf qu'ils sont en couleur comme les bonnets rouges. Mais les Bretons sont toujours des gens très civiques et très citoyens.
Ouais, enfin, Rennes.
Oui. Souvent les manifestations sont quand même assez. Rennes et Nantes. Bon,
c'est qu'on les a poussés à bout hein, quand ils.
Ça doit être ça. Merci Bernard en tout cas d'avoir été avec nous. Rémi, on termine avec des messages et les résultats de notre consultation.
Allez, ce message de Ludivine qui nous dit pour finir lors des manifestations, vous y pensez aux commerçants et aux habitants des lieux qui seront encore une fois dégradés. Bon, bah, clairement, elle craint des débordements. Il n'y a plus aucune liberté d'expression en France. En fait, avec LFI, c'est soit tu es d'accord, soit tu es un facho nazillon. C'est grave, très grave.
Le résultat de notre sondage, Rémi.
Le barrage anti-RN est-il utile? C'est le nom qu'il emporte massivement pour 85% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Dans un sens, on fera le zapping, mais d'abord, on fait gagner des places pour l'Euro, Rémi.
Oui, là, c'est le jeu RMC pour vous faire gagner des places pour les matchs de l'équipe de France pour l'Euro 2024 qui débute aujourd'hui en Allemagne. On vous offre le voyage à Dortmund, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match. Ce match, ce sera France-Pologne le 25 juin prochain. Deux places pour ce match. L'alerte, elle vient de retentir. Vous avez désormais 5 minutes pour vous inscrire et tenter votre chance en envoyant euro par SMS au 7-32-16, euro par SMS au 7-32-16.
Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC, on se demandera notamment si vous préférez Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin comme Premier ministre, et puis l'euro de foot va-t-il vous permettre de trouver l'amour? On sait que c'est une période propice, justement les compétitions de foot, pour trouver l'amour. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h34, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Perry Collégas, Emmanuel Dancourt et Laurent Dandrieux. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Souhaitez-vous Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin comme Premier ministre au sein du Front Populaire de Gauche? Plusieurs personnalités se sont déjà proposées pour le poste de Premier ministre, notamment Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Et pour Jean-Rémy, auditeur RMC et militant LFI, le choix est déjà fait.
J'ai une préférence qui est claire et nette, c'est François Ruffin. Je vais vous dire, je suis militant LFI, de la première heure. Je me suis donné, mais à fond, pour toutes les élections, dans le collage d'affiches, dans le tractage, dans toutes ces choses-là. Et honnêtement, je vais vous dire, je suis un gros déçu de tout ce qui s'est passé, de Mélenchon et de plein d'autres députés. Le seul qui est resté droit dans ses bottes, tout le temps, qui est allé sur le terrain, qui a rencontré les gens, les vrais gens de la vie de tous les jours, c'est François Ruffin. C'est le seul, à mon sens, qui sait de quoi il parle vraiment.
Ouais, et François Ruffin qui a la cote du côté des partis de gauche, alors qu'on a l'impression, quand même, Perry Collégas, que pour Jean-Luc Mélenchon, on est quand même sur une grosse descente, là.
Jean-Luc Mélenchon est un homme d'État qui a prouvé sa capacité, son intelligence politique, son courage. Et puis là, depuis quelque temps, il y a des déviances inattendues pour cet homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, dans lequel je me retrouve plus du tout par rapport aux valeurs que j'ai pu partager avec lui un temps, alors que François Ruffin incarne, j'allais dire, l'aspect acceptable de la France insoumise et du Front populaire. Et je pense que François Ruffin,
il s'en est un peu écarté quand même.
Mais je connais des gens à droite qui disent que s'il y avait le choix, même entre Ruffin et quelqu'un d'autre, il voterait Ruffin. C'est quelqu'un qui porte en lui un espoir. Mmh. C'est quelqu'un de sincère. On a la sensation de la conviction de la pureté, enfin, la sincérité. Voilà. Et dans les conflits idéologiques qu'il y a pu avoir au sein de la gauche, François Ruffin semble avoir toujours eu la parole juste, la parole appropriée, la parole modérée. Donc il a la confiance. Je rappelle seulement que c'est le président de la République qui désigne et nomme le Premier ministre.
Exactement.
En fonction de ce qu'il a envie de faire. Ensuite, l'Assemblée doit le valider. Mais au départ,
Mais alors du côté de la gauche, l'élection est déjà acquise, hein, parce que Clémentine Autain aussi a dit qu'elle aimerait bien Valérie Rabault.
Elle aimerait bien Ruffin.
Elle aimerait bien elle.
être aussi.
Elle, personnellement, voilà. Ils sont nombreux à se déclarer favorables à ce que ce soit eux.
Comment on dit, s'ils sont en situation d'avoir le premier de tel Matignon, je pense que la guerre interne entre eux sera d'une violence extrême.
Ça, c'est fort possible.
Ruffin, 10 fois Ruffin, évidemment, c'est pas compliqué. On a un Mélenchon qui est clivant et un Ruffin qui est rassembleur. Qui est droit dans ses bottes, qui connaît le terrain, qui parle toujours à bon escient. Et Mélenchon, déjà le personnage, moi je le trouve insupportable sur la forme et sur le fond aussi. Je pense qu'il y en a un qui incarne le passé et il y en a un qui incarne l'avenir. Voilà, donc c'est clair et net. Ruffin.
Alors, Jean-Luc Mélenchon qui a quand même beaucoup de pouvoir encore à LFI. Mais tiens, on parlait de la candidature d'Adrien Quatennens. On sait qu'Adrien Quatennens,
il est moisi Mélenchon.
Mais je pense que la force de Ruffin par rapport à Mélenchon, c'est qu'il est beaucoup plus respectueux des personnes. Oui. Donc forcément, il a moins d'ennemis en interne. Et après, je suis évidemment, je pense qu'il n'y a pas énormément de différences idéologiques de fond entre les deux. Mais il y a quand même, en plus de son côté haineux chez Mélenchon, une complaisance, d'abord une attitude très dictatoriale dans la façon dont il gère son mouvement, c'est et ça. Une complaisance pour certains dictateurs sud-américains, par exemple, qui n'est pas totalement du hasard.
J'avais oublié Chavez tout à l'heure, c'est vrai.
Le face-à-face RMC pour ou contre la suppression du droit du sol, c'est l'une des mesures que souhaite mettre en place rapidement Jordan Bardella s'il devenait Premier ministre. Et il l'a rappelé ce matin sur RMC face à Apolline de Malherbe.
Je supprimerai le droit du sol. C'est un message clair. Je dis avec moi, la France n'aura plus vocation à être un pays d'immigration massive incontrôlée. Nous choisirons de manière minime, mais nous réduirons drastiquement et considérablement le flux.
Perico Légas, pour ou contre la suppression du droit du sol ?
Alors, il est déjà, comme on dit, un petit peu altéré par certaines dispositions législatives qui disent que, à sa majorité, on est potentiellement français. Mais il faut le confirmer. Là, je crois, c'est un droit fondamental de la République française. Oui. Voilà. Mais il y a des gens qui, hélas, en ont abusé et on a le drame de Mayotte. On vient naître à Mayotte juste pour être français et ensuite voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas le supprimer en totalité, il faut l'adapter et le réglementer.
C'est compliqué de faire du cas par cas sur le droit du sol. Hein.
Oui. Non, mais faut mettre des délais. Non, mais c'est ce qu'on est en train de faire, on met des délais. Voilà, le droit du sol, mais on le confirme à 18 ans, mais de façon beaucoup plus solennelle, beaucoup plus prouvée. Et puis droit du sol, il faut prouver qu'on parle la langue. Si on est né en France et qu'on est français, et qu'on est intégré à la société française, il y a comme quelques paramètres qui permettent de savoir. Sinon,
on passe un examen quoi en fait.
Parce que vous savez, le droit du sol, il y a des pays où c'est, et qui sont des grandes démocraties, où c'est encore plus réglementé que ça. Ce que je ne veux pas, c'est le droit du sang à l'allemande. Voilà. Ça, par contre, je suis contre.
C'est comment, l'allemande?
Le droit du sang. D'accord. Ben, si tu es, où que tu naisses, si tes parents de parents allemands, tu es allemand. Ça,
Emmanuel Dancourt, est-ce que ça vous choque, vous, cette proposition, ou vous êtes d'accord?
Ça me choque. J'écoute ce que dit Perico. C'est pas un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché.
Mayotte, le drame.
Mais oui, non, mais voilà. Non, mais c'est parce qu'on a cet exemple-là.
C'est ça.
Et en se basant sur cet exemple-là qui existe et qui est concret, et moi j'aime bien qu'on est concret avec des exemples réels, je trouve que ce propose Perico, alors peut-être ça peut ressembler à une usine à gaz, mais au moins ça ressemble à de la nuance, quoi. Et là, on est obligé d'en avoir dans un débat aussi touchy que celui-là.
Donc, c'est un droit historique en France.
On peut aussi dire on reste comme on est, quoi. Voilà, c'est aussi une possibilité, Laurent Andrieu.
Oui, mais moi je pense que le droit du sol est un appel d'air formidable pour une immigration de peuplement. Donc moi je suis pour sa suppression. Et d'ailleurs, je constate qu'en fait, la gauche a été unanimement contre le rétablissement du droit du sol en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, il y a un moment, il faut un peu de cohérence.
Il y a un contexte particulier.
Oui,
mais, voilà.
Mais sauf que c'est quand même...
C'est des contextes particuliers
concernant qui posent question. Certaines populations, le droit du sol favorable au droit des peuples à rester maîtres chez eux, et en France métropolitaine, ils sont moins d'accord. Voilà.
Les GG ce matin sur RMC, la dissolution est-elle trop violente pour les collaborateurs d'élus? À l'annonce de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron, les députés et les ministres ont tous perdu leur poste, mais il y a aussi leurs collaborateurs qui vont désormais devoir pointer à Pôle emploi, un moment difficile mais en même temps exaltant pour le consultant et ancien collaborateur Antoine Diers.
J'ai un souvenir d'une élection municipale perdue. Je bossais pour le maire et puis on a perdu. Et donc effectivement, j'ai fait mes cartons le soir même. Et puis il y avait déjà les adversaires qui étaient à la porte et on prenait des cailloux sur les fenêtres, etc. C'était pas drôle. Et en même temps, c'est ça qui rend ce métier que j'ai fait pendant quelques années fabuleux. Parce que tu dis c'est violent. Oui, la politique c'est violent, mais c'est le dernier endroit dans notre société où on vit, on meurt, on gagne, on perd, on se bagarre, etc. Et donc c'est exaltant.
C'est exaltant ou c'est violent,
Perico Légas? Oui, j'en connais un grand nombre. Ils ont un statut d'une précarité
Ils sont 2000.
Contrairement aux élus qui sont assez protégés, ils sont d'une précarité totale. Et on se dit que le Parlement français a dans sa composition des gens qui travaillent pour lui et qui sont en fragilité. C'est vrai que le président de la République, dimanche soir, il a effacé d'un coup d'éponge, j'allais dire, une organisation qui était née des législatives de 2022. Beaucoup de députés avaient eu du mal à se faire réélire, un triangulaire qui se battait là dans une situation difficile parce que la majorité a pas toujours le vent en poupe dans les projets de loi. Et tout d'un coup, le président de la République a ce pouvoir de dire voilà, toute fois la poubelle c'est terminé.
C'est ça.
Et vous êtes à Pôle Emploi et pour tous.
Alors qu'il y en avait beaucoup qui avaient bien bossé.
Je peux vous dire que aujourd'hui, le mécontentement et le ressentiment le plus violent sur la dissolution vient du camp de la majorité présidentielle.
J'ai un bémol quand même sur le fait que quand un collaborateur parlementaire bosse bien, et il est quand même très 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 sollicité après. Enfin, il n'y a pas trop de mal à faire.
Oui, mais sauf que là, tu sais qu'il y a bien des solutions gratuitement là.
S'ils sont députés réélus.
Le problème, c'est que ils vont faire du bénévolat. Donc, ils ont tous découvert en direct. Ils sont plus de 2000 à avoir découvert en direct. Ils avaient plus de boulot. C'est d'une violence inouïe.
Quand tu t'engages
dans ces carrières-là, mais en général, t'as plusieurs années pour voir venir. Tu sais bien que c'est des métiers comme ça. Mais là, ils ont découvert ça en direct. Personne s'y attendait. Et moi, j'en ai eu au téléphone. Pourquoi? Parce que il se trouve que MeToo Media, mais pas que MeToo Media, beaucoup d'associations féministes ou de personnes engagées dans ces sujets-là ont été auditionnées par la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles, qui avait déjà auditionné 70 personnes. Il y avait déjà 35 heures d'audition qui était là. Et nous, on travaillait pour continuer de travailler avec l'Assemblée nationale. Et d'un seul coup, on a rappelé lundi matin en disant « Comment ça va ?» Et notamment, c'était la députée Francesca Poschini qui était rapporteure de cette commission, enfin qui était, et à l'origine de tout cela. Et ça va pas du tout. En fait, ils avaient une semaine pour boucler leur carton, rendre les téléphones portables, rendre les ordinateurs, tout rendre en fait. Il faut partir très très vite. Les dossiers n'étaient pas bouclés. Il y avait beaucoup de travaux qui étaient en jeu aussi pour les enfants, pour le droit des enfants.
Et tout
ça s'arrête. Et si on arrive, si ces gens-là arrivent à se faire réélire, s'ils arrivent à se faire réélire, ça veut dire que les collabs vont travailler gratuitement, pour l'instant, bénévolement, pour essayer de les faire réélire. Et s'ils arrivent à les faire réélire, mais c'est très très long de mettre en place une commission d'enquête. Donc il y en a pour un an, au pire, de perdu. Et pendant ce temps-là, on a des enfants et des gens qui sont violés, qui sont agressés, et on ne change pas la loi et on ne fait rien, quoi.
Et mine de rien, on parle souvent des dépenses de l'État. C'est-à-dire que là, il y a un nombre de députés et de collaborateurs qui ont bossé sur des dossiers. Je pense à la fin de vie, notamment.
Violence
sexuelle, à la loi Airbnb, etc. C'est jeté à la poubelle. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant des mois et des mois. Il y aura un décret dans l'assurance chômage, mais pendant des mois et des mois pour rien. Et là, on se dit, mais c'est hallucinant. Et le pire, c'est qu'on pourrait quand même se dire, dans un esprit de logique, tiens, on va garder les travaux qui ont déjà été faits, et puis ça profitera à la suite. Normalement, c'est des travaux qui sont neutres. Je veux dire, donc.
Qui sont transparents.
Et
tu sais ce qu'on fait ? On va prendre des notes sur tout ce qui s'est passé pour se faire préserver.
Sur la loi de fin de vie, ils n'étaient pas neutres du tout.
Alors, mais pourquoi sur les violences, tu peux les garder quand même. Tu les gardes et après tu peux les amender, tu peux les augmenter, tu peux faire.
Personnellement, pour moi, c'est l'excellente nouvelle de cette dissolution.
Mais tu gardes ce qui a déjà été fait quand même. C'est un peu bête de jeter du travail à la poubelle.
Étant entendu en annexe que vous avez des responsables politiques et même des collaborateurs qui vont être tout de suite recasés dans le privé à des salaires mirobolants pour certains.
Mais pas tous les jeunes qui démarrent, les assistants parlementaires.
C'est ton travail qui a été effectué. Et en fait,
c'est le premier jour.
Mais c'est aussi tes impôts qui payent pour
poubelle.
Ça. Et donc, il y a un moment où, en fait, tu jettes de l'argent par
les
gens.
Tu veux que je te dise, au-delà de ça, pour l'instant, les ministres sont encore là. Mais moi, ça fait 2 ans et demi que je suis présidente de MeToo Media. J'ai déjà connu 4 ministres de l'égalité femmes-hommes. Tu recommences tous les 6 mois. Tu es obligé de tout recommencer. On attend des subventions. On ne sait même pas si elles vont tomber. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aider les victimes. C'est catastrophique. Macron, il a encore pensé qu'à lui en faisant ça, sans penser une seule seconde à tous les gens que ça mettait dans la mouise.
En espérant que ça lui profite, c'est pour gagner.
C'est marrant, c'est pas ça qui se profile, Perico Légas. Allez, dans un instant, RMC s'engage avec vous, avec Guillemette Franquet. On va reparler des clients Xina. Vous savez, qui attendent toujours leur cuisine.
Ah oui.
Ben oui, mais il y a eu la faillite d'un magasin à Agen, mais pas de cuisine, pas de remboursement. On va essayer de les aider. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h51, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et c'est l'heure de vous aider dans l'émission RMC s'engage avec vous, avec Guillemette Franquet.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et Guillemette, aujourd'hui, on reparle des problèmes de franchise de cuisinistes avec des soucis chez Xina.
Exactement. Alors, on s'est engagé il y a quelques mois pour des clients Mobalpa, laissés sur le carreau après la faillite de différents magasins. Des franchises, ce sont donc des boutiques indépendantes, même si elles font partie du réseau Mobalpa. Et donc cette fois, trois auditeurs nous ont contactés pour un problème avec une franchise d'un autre cuisiniste, Ixina. Le magasin d'Agen a mis la clé sous la porte en octobre dernier. Parmi les clients, Gonzague, il a avancé près de 2700 euros pour refaire la cuisine de sa maison de vacances dans le Lot et Garonne. Il voulait accueillir toute sa famille, ses quatre enfants et ses 10 petits-enfants.
On a fait tous les plans, on est venu deux fois. Juste au début des vacances de la Toussaint, par la presse, on a appris en fait le dépôt de bilan. Le sang a fait qu'un tour et on a été voir sur place. Et quand on est arrivé sur place, c'était fermé.
Et aujourd'hui, il demande des comptes à Ixina France.
Pour moi, Ixina était une marque sérieuse. Je pense que le franchisé était à l'image. Et c'est là où j'en veux beaucoup à Ixina, de ne pas avoir vérifié déjà ça.
Mais c'est vrai que Ixina, on connaît tous la pub Ixina.
On chantait bizarre.
Mais oui. C'est quand même, normalement, c'est une marque sérieuse. Voilà, on les voit à la publicité, etc. Donc on comprend pas bien ce qui s'est passé quand même.
Bah, de fait, hein, Ixina, ça se porte très bien. 190 franchises en France. En moyenne, 10 magasins ouverts chaque année. Une seule fermeture en 2023. Donc c'était à Agen. Bon, alors on leur a demandé à Ixina France, qui nous assure qu'elle choisit avec soin ses franchisés. Et surtout, en cas de faillite, la marque, elle a mis en place une garantie d'achèvement. En clair, il s'arrange avec un autre magasin pour finir les chantiers sans demander aux clients de repayer la compte.
Ixina... Bah, ils ont fait
plus ça. C'est vrai que ça fait partie de ces franchises qui, en tout cas, font en sorte qu'avec leur franchisé, ils peuvent redéléguer à un autre franchisé. Et là, pour Agen, Ixina France certifie l'avoir proposé aux clients et ils ont presque tous accepté.
Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi nos trois auditeurs ont été abandonnés et pourquoi ils vous ont écrit?
En fait, ils seraient passés à travers les mailles du filet. Selon Ixina France, la plupart des clients qui sont sortis du circuit de repasser chez un autre franchisé, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu faire la cuisine avec un autre. Mais Gonzague, il ne nous explique pas tout à fait ça. Lui, il dit que le service client lui a bien proposé de reprendre son dossier, mais à lui, on lui a dit qu'il fallait payer à nouveau la compte. Et là, il a refusé.
700 euros, donc.
Exactement.
Bien sûr.
Donc, il voulait récupérer son argent. Il a dit qu'il n'en était pas question. C'est pour ça qu'on a fait appel à Ixina France, qui dit qu'elle va réfléchir à la manière de s'excuser pour la gêne subie. On va suivre ça de près.
On espère déjà soit qu'il lui rende son acompte, soit qu'effectivement qu'il lui refasse sa cuisine. Enfin, ça paraît assez logique. Merci beaucoup, Guillemette Franquet. RMC s'engage avec vous. C'est tous les jours, 13h50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on va parler du début des épreuves du bac français pour 535 000 élèves de première. Mais le bac sert-il encore à quelque chose? Appelez-nous, tiens, si vous n'avez pas le bac, mais que vous avez quand même un super métier et que vous êtes très heureux sans. Appelez-nous aussi si vous poussez vraiment vos enfants à avoir le bac coûte que coûte. On vous attend 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.